on.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Je voudrais de prime abord évoquer le lieu qui a été choisi par la Jamaat pour organiser la prière du vendredi. Et les responsables disent que la prière du vendredi de la semaine prochaine se tiendra ici. En raison de la proximité de l'aéroport et du trafic aérien, il se peut qu'il y ait du bruit des avions et que cela prenne de l'ampleur à certains moments. Je tenterai de me faire entendre en dépit du bruit et de faire en sorte que je sois compréhensible. L'on pourra endurer le bruit si son seuil est le même qu'à l'instant. Ils disent que cela dépend de la direction du vent. Si le vent souffle dans cette direction, eh bien, le bruit sera plus fort. Si elle souffle dans l'autre direction, le bruit sera atténué. En tout cas, en raison de l'exiguïté, l'on ne pourra pas accomplir la prière du vendredi à Beit Soubour. Ils disent aussi que la Jamaat n'a pas trouvé d'autres salles à un prix abordable. Selon moi, s'ils avaient fait les arrangements nécessaires en temps et lieu, ils en auraient trouvé. Or, chez nous, on a l'habitude de tout faire au dernier moment. Et on se donne l'illusion que tout va bien se passer. Par la grâce d'Allah, certaines œuvres se font même dans des situations de crise. Peut-être que cela n'est pas le cas d'aucune autre organisation hormis la Jamaat Ahmadiyya. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire de tout planifier à l'avance. C'est en raison de ces illusions, c'est en raison de ce manque d'attention, et c'est en raison de cette insouciance que l'on n'arrive pas à organiser la prière du vendredi ou tout autre événement à Baitul Afia qui a été acheté récemment et qui est situé à côté du centre Baitul Soubour. L'année dernière, quand j'étais présent en Allemagne lors de la Jalsa Salana, j'ai dirigé la prière du vendredi à Beit Soubou. En raison de l'étroitesse des lieux, on avait interdit aux femmes et aux membres des Jamaat avoisinants de venir à la prière du vendredi. J'avais demandé à l'époque aux responsables de la Jamaat d'obtenir au plus vite l'autorisation nécessaire pour le bâtiment Baitul Afia afin que l'on ne soit pas confronté à ces difficultés. Selon moi, ou tout au moins, selon leur rapport, ils sont en train de faire des efforts sérieux à cet égard depuis ce moment. Cependant, la commune ne cesse de soulever des petites objections ici et là. Les responsables auraient dû avoir tout cela en tête depuis le début, à savoir que la commune ne leur est pas soumise et qu'ils obtiendront facilement l'autorisation. Dès qu'ils ont acheté le bâtiment, ils auraient dû sérieusement faire les démarches pour l'autorisation afin qu'ils puissent l'utiliser et pour y apporter les modifications nécessaires. Si les travaux avaient débuté à l'époque, eh bien, nous n'aurions pas eu autant de difficultés aujourd'hui. Ils pensaient que ce site serait assez grand pour accueillir tout le monde lors de ses vacances pascales. En raison du grand nombre de personnes présentes, ce site est devenu exigu. La situation aura été la même à Baitul Afia. Cependant, l'on aurait pu organiser la prière du vendredi sur une échelle ordinaire là-bas. Cela fait 2 ou 3 ans depuis qu'on a acheté ce bâtiment et jusqu'à présent, certains obstacles entravent son utilisation. Lorsqu'on avait acheté ce bâtiment, la situation du monde était un tant soit peu meilleure, en référence aux musulmans. Et si les démarches avaient débuté à l'époque, l'on aurait pu obtenir rapidement les autorisations nécessaires. Mais aujourd'hui, leur appréhension concernant les musulmans ont pris de l'ampleur. D'où la raison de ces difficultés. Peut-être que l'amir Saab et les autres responsables diront que ce ne sont pas là les raisons et que les démarches auraient pris du temps de toute façon. En tout cas, c'est en raison de leur paresse et en raison de cette habitude à remettre à plus tard tous travaux que nous sommes aujourd'hui en train de faire face à ces difficultés. Qu'Allah accorde aux responsables discernement et compréhension et qu'il les fasse sortir de leur illusion, qu'ils puissent comprendre la réalité et qu'ils puissent passer à l'action. Vous avez choisi ces responsables, il vous incombe de prier régulièrement afin qu'ils soient actifs et afin qu'ils soient doués de discernement. En tout cas, en quelques minutes, nous avons entendu 3 ou 4 avions passer au-dessus de nous. Il va falloir endurer cela. La deuxième option aura été de limiter le nombre de personnes venant à la prière du vendredi et d'en empêcher les femmes. Au Pakistan ou dans les pays où il y a de l'opposition contre la Jamaat, on empêche les femmes de venir à la prière du vendredi en raison de la situation. La prière du vendredi est accomplie en différents lieux et pas dans un centre en particulier. En Algérie, il y a une restriction totale. L'on ne peut pas accomplir la prière du vendredi dans aucun centre, voire dans aucune maison. C'est en raison d'une loi abusive et par peur des ennemis que les Ahmadis sont contraints d'agir de la sorte. C'est en raison de notre paresse et du fait que l'on n'accorde pas d'importance aux affaires de la communauté qu'on est en train de mettre ces restrictions ici, en dépit de la liberté de culte qui existe dans ce pays. En tout cas, priez pour que lors de ma prochaine visite, nous ayons l'autorisation d'utiliser le bâtiment Baitul Afia ou que tout au moins les responsables puissent trouver un lieu qui puisse accueillir confortablement tout le monde. Baitul Afia pourra, pour un certain temps, pallier ce manque d'espace. La Jamaat, Inch'Allah, grandira et elle est en train de grandir. C'est pour cette raison que tout lieu que nous allons acquérir sera exigu au fil du temps. Après avoir acquis un bâtiment et n'ayant pas pu l'utiliser pendant plusieurs années en raison de sa paresse, il ne sera point approprié de présenter comme réponse qu'il est trop exigu. Pareille affirmation n'est d'ailleurs pas une preuve d'intelligence non plus. J'avais choisi un tout autre sujet pour le sermon d'aujourd'hui. Je dois diriger la prière funéraire de certaines personnes aujourd'hui. Et étant donné que certains faits les concernant m'ont été présentés, j'ai pensé que j'en ferai mention aujourd'hui. Parmi les défunts se trouve un martyr, se trouve un missionnaire et se trouve aussi une des petites filles du Messie promis alayhi salam. Certaines qualités de ces personnes sont des exemples pour chaque couche des membres de la Jamaat. Beaucoup parmi nous doivent adopter ces qualités. Il s'y trouve des leçons pour beaucoup parmi nous. Ainsi, au lieu d'évoquer brièvement les défunts, je voudrais mentionner en détail certains faits les concernant. Les aspects de leur vie qu'on m'a présentés et dont j'avais connaissance sont à l'image de cette déclaration du Saint-Coran, déclaration dans laquelle il est dit « Man qada nahbahu », c'est-à-dire qu'ils ont respecté leurs promesses et leurs intentions. Ils ont, au cours de leur vie, respecté leur promesse de préférer la foi à ce monde, et ils se sont ainsi présentés à Dieu l'exalté. Le premier parmi eux est notre frère qui est tombé à martyr, le professeur Dr Ashfaq Ahmed Saheb. Il est tombé à martyr vendredi dernier. Le professeur Dr Ashfaq Ahmed Saheb était le fils de Sheikh Sultan Ahmed Saheb de Lahore. Le défunt avait 68 ans. Un ennemi de l'Ahmadiyya à moto lui a tiré dessus vendredi dernier lorsqu'il partait en voiture accomplir la prière de Jumma à la mosquée Baitut Tawhid. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Selon les rapports qu'on a reçus, ce jour-là, le défunt portait dans sa voiture la prière du vendredi accompagné de son petit-fils de 12 ans, Shahzeb, et de Zahir Ahmad, un Ahmadi du quartier de Sabzazar. Le défunt était lui-même en train de conduire la voiture et son petit-fils était assis à côté de lui. L'autre passager était sur le siège arrière. Ils avaient quitté le quartier Sabzazar et ils étaient arrivés à la rue Multan, où la circulation s'était arrêtée en raison des travaux. Dès que leur voiture s'est arrêtée, un individu à moto portant un casque s'est approché du siège du conducteur. Il a placé un pistolet sur la tempe du martyr et a fait feu. Il a pris la fuite. La balle a traversé la tempe du défunt, qui est tombé à martyr sur le coup. Les deux autres passagers étaient quant à eux sains et saufs. Le grand-père du martyr, Cheikh Abdul Qadir Saheb, était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait accepté le Messie premier alayhi salam lors de sa visite à Ludhiana. Il était originaire de Sangrur, situé à l'est du Pendjab en Inde. Pir Miran Bakhsh, une grande personnalité de la région, avait accepté l'Ahmadiyya et avait invité le grand-père du défunt à en faire de même. Par la suite, le grand-père du défunt embrassait l'Ahmadiyya en compagnie de toute sa famille. Le grand-père du défunt avait rendu l'âme avant la création du Pakistan. Aïcha Sahiba, sa grand-mère, avait pris la tête de la famille lorsqu'ils ont quitté l'Inde pour s'établir à Lahore au Pakistan. Après avoir passé quelque temps dans un camp, ils se sont établis à Nigar à Lahore, où le martyr est né en 1949. Après quelques années, la famille s'est établie à Rabwa. Après avoir complété ses études élémentaires à Rabwa, le défunt s'est enrôlé dans le collège vétérinaire de Lahore et sa famille est revenue s'établir dans cette ville de nouveau. Après avoir complété ses études vétérinaires, il a commencé à enseigner en tant que conférencier, puis en tant que professeur. Le père du défunt, Sheikh Sultan Saheb, était sous-inspecteur dans la police du Punjab. Il a ensuite servi comme inspecteur. Par la grâce d'Allah, le défunt était moussi, il éprouvait une grande affection à l'égard du califat. Il accomplissait régulièrement la prière tahajjud et il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité et il servait l'humanité. Il était obéissant vers les titulaires de poste et il était imbu d'une grande sincérité. Il était toujours prêt à servir à la Jamaat et possédait de grandes qualités. Il éprouvait une grande passion pour la transmission du message d'Allah. Il possédait de hautes valeurs morales et une grande humilité. C'est pour cette raison qu'il était très apprécié de ses élèves et de ses collègues. Il invitait ces derniers pour des repas chez lui et il leur présentait de manière convaincante le message de la Jamaat. Il avait reçu des menaces pour cette raison, mais il ne s'en souciait pas. Il disait que c'était là quelque chose d'insignifiant. Depuis son enfance, il était très impliqué dans le service de la Jamaat et il avait occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat et dans les organisations auxiliaires. Après avoir élu domicile dans le quartier Sabzazar, il a servi en tant que président et en tant que Zaïm et Allah adjoint et il a rendu de fiers services à ses postes. Cette année-ci, il a été nommé en tant que secrétaire d'Awatilallah dans l'émirat d'Iqbal Town de Lahore et il avait à cet effet mis en place un très bon programme. Son épouse souffrait de ses joints depuis fort longtemps. Le défunt l'a servi de gaieté de cœur. L'épouse du défunt est décédée en décembre dernier. Le couple n'avait pas d'enfants. Ils avaient un fils adoptif qui avait deux fils, Shahzeb et Shahzain, qui habitaient avec eux à Lahore. Et l'un des deux partait probablement avec le défunt lorsqu'il se rendait pour la prière du vendredi. Un des frères du défunt, M. Ilyas, se trouve à Birmingham. Il raconte, le défunt était un frère très bienveillant. Il n'était pas comme un grand frère à l'égard de ses petits frères. Il s'occupait d'eux comme d'un père. Il a joué un grand rôle dans notre éducation morale et spirituelle. Il nous a enseigné la Salah ainsi que sa traduction et la lecture du Saint-Coran. Il était très prévenant à l'égard de ses benjamins et il nous a toujours aidés et guidés lors de nos études. Il rencontrait nos enseignants à l'école et il était soucieux à notre égard. Il nous préparait avec beaucoup de soin pour les programmes de la Jamaat. Il nous entraînait pour les différentes compétitions académiques. Il nous prenait avec lui pour accomplir la prière en congrégation. Si les frères aînés ainsi que les parents s'accompagnent des petits pour les solas, eh bien, la présence de nos mosquées augmentera considérablement. Le frère du défunt relate, il nous prenait toujours avec lui en premier lorsqu'on devait se rendre à la Jamaat pour rendre quelques services. Le martyr avait vu un rêve à l'époque du quatrième calife et son frère s'en est souvenu soudainement 2 jours après le martyr. Le défunt avait relaté dans un rêve, « J'ai vu une mosquée de notre quartier, une mosquée appartenant aux autres musulmans. On y annonçait que le quatrième calife est décédé et j'ai vu un couteau dans notre boîte à lettres. » Selon son interprétation à l'époque, le couteau signifiait que la Jamaat allait devoir consentir à des sacrifices. Et l'annonce du décès du quatrième calife signifiait que la Jamaat accomplira de grands progrès à son époque et qu'on annoncera son décès dans des haut-parleurs. Ce rêve a été réalisé étant donné qu'on en a fait l'annonce sur la MTA. Le couteau qu'il avait vu prédisait son martyr. Il en a présenté la bonne interprétation et cette interprétation s'est réalisée. Il est tombé en martyr. Le frère du défunt relate, « Notre frère nous a dépassés en tombant en martyr, il a honoré notre famille. » En étant le premier martyr de la famille, il nous a laissé un exemple pour l'avenir. Qu'Allah exalte son statut, il laisse derrière lui 6 frères et 1 sœur. Ils résident presque tous à l'extérieur du Pakistan. La deuxième personne décédée que j'évoquerai est Mukarram H. Nasiruddin Saheb, missionnaire en charge du district du Godavari oriental en Inde. Il s'est noyé à l'âge de 42 ans dans la rivière Godavari le 7 avril 2017. Le jour de l'accident, il s'était rendu au bord de la rivière en compagnie de l'Amir Saheb de Secunderabad et d'autres membres de la Jamaat. Ils y sont partis après avoir accompli la prière de Fajr dans la Jamaat de Bagalpuri. Le défunt était un bon nageur. Il nageait avec d'autres amis quand on l'a perdu de vue. On l'a cherché avec l'aide des pêcheurs pendant une heure et on a découvert son cadavre gisant au bord de la rivière. Mokaram et Shahil Hamid étaient le père du défunt. Il était le premier Ahmadi de sa région dans le district de Kerala et une jamaat a été établie par son entremise. La mère du défunt s'appelait Chira Kerubi et elle était quant à elle parmi les premiers Ahmadis de la région. Le défunt avait complété ses études de missionnaire en l'an 2000 en Kadian. Il a servi brillamment comme missionnaire dans différentes localités dans les états d'Andhra et de Telangana. Il a eu l'occasion de servir la grande jamaat de Chittakuntani et avec grande sagesse, il s'est occupé de l'éducation des membres des jamaat qui étaient sous sa responsabilité. Au moment de son décès, il occupait le poste de missionnaire en charge du district du Godavari oriental. Son épouse relate qu'ils avaient résidé en des lieux où il n'y avait que des centres de la Jamaat. Le défunt portait avec son épouse et ses enfants et dirigeait la prière et y tenait des classes. Il l'avait fait un jour avant son décès. C'est là une leçon pour les missionnaires. Si les Jamaat sont situés à des distances éloignées et si personne ne vient à la prière, il faudra y accomplir la prière en congrégation avec les membres de sa famille. Sa femme rapporte que lorsqu'il était posté à Kamaridi, eh bien, l'opposition a pris de l'ampleur, surtout après la distribution de dépliants. Il s'est fait attraper et il s'est fait tabasser, mais par la grâce de Dieu, il s'en est sorti sain et sauf. Sa femme rapporte ensuite que je lui ai dit que la situation est très difficile ici, il faudra faire une demande de mutation à Kerala parce que la situation était dangereuse dans la ville et l'hostilité avait pris de l'ampleur. Le défunt a répondu, nous pourrions quitter les lieux, je peux demander une mutation au centre en raison de l'opposition et peut-être que le centre va approuver ma demande. Mais qu'en deviendra-t-il des Ahmadis de cette ville? Où seront-ils mutés? Ces derniers feront constamment face à cette hostilité. Il n'est point approprié de partir par peur de l'opposition. Nous devons honorer les promesses attachées à notre Wakfa et nous avons dédié notre vie, peu importe la situation, nous allons rester ici. Il disait souvent, il n'y a pas pour moi de plus grande faveur que de tomber un martyr. C'est pour cette raison que nous allons rester ici. Sa simplicité était telle qu'il n'avait jamais acheté de meubles personnels selon son épouse. Il disait souvent que nous avions dédié notre vie, nous allons partir là où la Jamaat nous dira de partir. Il ne faut pas que nos meubles ou nos biens de la maison fassent obstacle à notre mutation si nous devons bouger immédiatement. Nous allons nous contenter de ce que la Jamaat nous a donné. C'est là une autre leçon pour les Waqfi Zindagi. L'année dernière, il a été posté à Amlapuram. Il était tellement déterminé à enseigner les enfants la récitation du Saint-Coran qu'il parcourait tous les jours 1 kilomètre à pied ou à vélo dans ce but. C'est là encore une fois une leçon à retenir pour les missionnaires. Son épouse rapporte qu'il avait un très grand sens de l'hospitalité. Elle rapporte que si lors des vacances scolaires elle retournait à Kerala et qu'elle n'était pas présente chez elle et que des invités venaient à la maison, le défunt n'était jamais inquiet. Il cuisinait lui-même le repas et les offrait à ses invités. Il souhaitait souvent tomber en martyr. Le défunt disait à maintes fois, « J'ai vu le musulman Maoud et mon père dans des rêves. » Et mon père m'appelait vers lui en faisant signe. En tout cas, il est tombé en martyr d'une certaine manière, car il avait dédié sa vie pour la religion, et il est mort durant cette tournée qu'il avait entreprise pour la foi. C'est là aussi une forme de martyr. C'était quelqu'un qui priait beaucoup, il était régulier dans ses prières tarajoud, et il était très amical, il prêchait le message de l'Ahmadiyya avec courage. À plusieurs reprises, les opposants l'ont séquestré et l'ont tabassé. J'avais une fois mentionné un incident le concernant dans un de mes discours lors de la Jalsa Salana. Dans cet incident, il s'était fait tabasser violemment par les mollahs. Le défunt laisse derrière lui sa mère qui est âgée, sa femme, ainsi que deux fils. Il avait deux frères aînés, Haj Suleiman Saib, qui est l'amir de la province de Palghat, Kerala, et Haj Shamsuddin Saib, son deuxième frère, est en train de servir dans la section Malayalam de la Nazarat Nasho Ishad à Qadian. Navid Al-Fatha Shahid est un missionnaire qui a eu la chance de servir à ses côtés. Il rapporte concernant le défunt, Maulana H. Nasruddin Saab était à Kerala. Il était en train de servir dans la province d'Andhra et de Telangana depuis environ 18 ans. Ils étaient postés au même endroit et ils avaient ainsi la chance de se rencontrer souvent. Lors des réunions, le défunt faisait preuve d'une grande humilité. Il était toujours prêt à rendre n'importe quel service pour le succès de la Jamaat. C'était une personne emplie d'une grande affection, c'était quelqu'un qui appliquait ce qu'il prêchait. Il était régulier dans ses prières tahajjud et il tenait des classes pour l'éducation des membres tous les jours. Il avait réservé certaines heures pour les travaux du bureau. Son respect à l'égard des grands était une de ses qualités distinctives ainsi que sa bonté envers les petits. Il sortait régulièrement sans aucune crainte de ses opposants. Et c'est pour cela qu'il avait un très grand cercle d'amis parmi les non-Ahmadis. Il partait les rencontrer avec beaucoup de joie. Il était très aimé de tous. L'autre missionnaire rapporte que je n'ai jamais vu un signe de colère sur son visage. Il se comportait avec beaucoup de bonté envers les mollimines. Il prenait soin d'eux et était tellement affectueux que tout le monde qui le rencontrait devenait son admirateur. Il étudiait les ouvrages du Messie premier l'Islam régulièrement. Il consacrait une partie de la journée pour cette lecture. C'est également une chose très importante pour tout missionnaire. Le défunt ne ratait jamais à la lecture du Saint-Coran. Il écrivait son journal tous les jours et il écoutait avec une attention particulière les conseils émanant du calife. Il écoutait les sermons attentivement et il faisait également de son mieux d'appliquer toutes les directives du calife. Il ne présentait aucune excuse. Il essayait d'agir en fonction de chaque parole du calife. Ceci est encore une fois très important pour tous les missionnaires, les Wakfizindagi. Il avait un très grand amour pour le califat ainsi que pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour le messie promis à l'islam. On dit que c'était là une de ses qualités particulières, une qualité qui était très évidente en sa personne. Une fois, les opposants l'ont emmené dans la mosquée Bilal de Kamareddi et l'ont tabassé violemment. Il a enduré les coups patiemment sans broncher. L'autre missionnaire rapporte que le défunt a été admis à l'hôpital avec l'aide de la police après s'être fait tabasser et j'étais parti le visiter à l'hôpital. Bien que son corps fût couvert de blessures et de bandages, Le défunt avait le visage brillant. Il y avait sur son visage une joie spirituelle. Il était très content et racontait lui-même l'incident en ces mots. Il disait que les opposants me demandaient « Qu'est-ce que Mirza Ghulam Ahmad s'est-il revendiqué ?» Je répondais qu'il s'était dit être un prophète zilli. Sur ce, les opposants me frappaient encore une fois. Lorsque j'étais demi-mort, ils me demandaient de nouveau le sens d'un prophète zilli. Je répondais que Mirza Ghulam Ahmad disait qu'il avait reçu son statut de prophète en raison de son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les opposants me tabassaient de nouveau. Il racontait cet incident en disant que c'était là une faveur divine, que Dieu m'a accordée. J'ai pu pour sa cause endurer ses persécutions et être tabassé. Le missionnaire écrit que lorsque le défunt a été muté ailleurs, eh bien, il m'a conseillé ceci. Il m'a dit, moi, je pars, mais ici, vous allez devoir travailler avec beaucoup de sagesse en raison de l'hostilité et vous aurez beaucoup d'opportunités à servir. Et il m'a expliqué à propos de l'opposition et comment accomplir l'établir dans ces situations. En d'autres mots, il a remonté le moral de ceux qui sont venus après lui. Il leur a dit de ne pas avoir peur et de transmettre le message de l'Ahmadiyya et de le faire avec courage. Le Mualim Wazir Saheb rapporte que le défunt était constant dans ses prières de Tahajjud et qu'il offrait ses prières avec beaucoup d'humilité. Il récitait le Saint-Coran tous les jours, c'était quelqu'un de bonne humeur, il pratiquait ce qu'il disait. Il avait un grand amour pour le califat, il tentait toujours d'accomplir ses prières en congrégation, il avait un grand sens de l'hospitalité, il était simple et il évitait toute dépense inutile. Il aimait la lecture et il répondait aux interrogations de manière éloquente. Chaque fois, lors des différents événements ou lors des réunions, et en particulier lors des voyages, lorsqu'il était avec les Khuddam, il parlait de la Jamaat et racontait des récits renforçant la foi. Il se comportait avec tout le monde de manière très polie, c'est pour cela que les gens aimaient rester à ses côtés. Le Mualim rapporte qu'une fois à Kamaredi, les opposants avaient planifié de tabasser le défunt en raison de la distribution de dépliants. C'était le 20 février, la journée du Muslim Aoud, et le défunt s'était rendu au centre de prière plus tôt, et une foule d'environ 100 personnes de non-Ahmadi était sortie à sa recherche, mais comme ils s'étaient déjà rendus à la mosquée, eh bien, ils n'ont pas pu l'intercepter. Les opposants et les mollahs ont arrêté le Mualim Mohamed Omar Saheb, sa femme ainsi que ses deux enfants, qui partaient dans la direction de la mosquée afin de participer dans la rencontre. Ses opposants ont dit que tant que Hesh Nasiruddin ne viendra pas, nous n'allons pas te laisser partir. Lorsque le défunt a su, eh bien, il s'est rendu immédiatement sur les lieux et il a annoncé que je m'appelle Nasiruddin. Ils ont laissé partir le Mualim, sa femme et ses enfants, et ils ont pris avec eux le défunt et l'ont frappé. Et ils lui ont violemment tabassé. Grâce à la police, il a été relâché, et les opposants lui demandaient de nier le Messie premier l'Islam et de qualifier le Messie premier l'Islam d'imposteur. Qu'Allah l'élève en rang et qu'il accorde à ses enfants de la patience. Je vais à présent évoquer Sahibzadi Amtul Wahid Begum Sahiba, qui était l'épouse de Sahibzada Mirza Khurshid Ahmad Saheb. Elle est décédée le 10 avril 2017 à 22h à l'âge de 82 ans. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. La défunte était la fille Benjamin de Hazrat Mirza Sharif Saheb et elle était ma tante paternelle. Le Messie premier Islam était son grand-père paternel et Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Saheb était son grand-père maternel. La défunte a été enterrée à la Bashti Makbara à Rabwa. Elle est passée par deux grandes maladies, des maladies très dangereuses, des maladies qu'elle a endurées avec beaucoup de patience et de courage. Le docteur Nouri a écrit au sujet de la défunte. Le docteur Nouri a écrit en disant que j'ai observé la défunte depuis les deux dernières décennies. Lors de ses maladies, elle était un exemple parfait de vertu. Il rapporte qu'elle endurait la maladie avec beaucoup de courage et patience. Elle était atteinte du cancer et durant ses derniers jours, sa situation était très critique du point de vue physique et mental. Le traitement était aussi très pénible, mais en raison des capacités que Dieu lui avait accordées, elle a fait montre de patience et n'a pas laissé cette maladie devenir un obstacle dans sa vie de tous les jours. Elle s'est battue avec beaucoup de courage contre cette maladie. Le docteur écrit qu'elle faisait tous ses travaux avec un sourire au visage et sans aucune crainte, elle était satisfaite du souhait divin. Même dans les derniers jours de sa maladie, elle s'occupait de sa maison et elle prenait soin de son époux. Elle avait une relation exemplaire avec son mari. Elle était malade, mais lorsque son mari, Saibzada Mirza Rashid Ahmad Saib, a subi une angioplastie, eh bien, elle s'occupait de lui tout en oubliant sa maladie. Elle avait un très grand sens de l'hospitalité. Elle accueillait ses invités peu importe l'heure à laquelle ils venaient, et la plupart de ses invités étaient de l'étranger. Et durant les jours de la Jalsa et des Shura, elle prenait grand soin de ses invités. Après sa maladie, je l'ai rencontrée à deux reprises à Londres. En 2005, je l'ai rencontrée à Qadian la première fois après mon élection comme calife. Et lorsqu'elle est venue ici à Londres, elle a fait montre d'une grande sincérité envers le califat. En dépit d'être âgée, elle venait à ma rencontre avec beaucoup d'humilité. Notre défunte mère était sa belle-sœur. Étant la plus petite fille de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb, elle avait le même âge que ma plus grande sœur. Et ma mère l'a toujours traitée comme son enfant. Elle aussi, elle ne l'a jamais considérée comme sa belle-sœur. J'ai toujours observé qu'elle avait un très grand respect pour ma mère et qu'elle la considérait comme une aînée. Et elles avaient une relation exemplaire. Son mariage avait été célébré par le deuxième calife, qu'Allah soit content de lui, le 26 décembre 1955. Ce jour-là, le deuxième calife avait aussi célébré le mariage de Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Saheb avec sa fille Saibzadi Amtul Matin Saheba, Il avait également célébré le mariage d'une des filles de Chaudhry Zafar Khan avec Ijazul Haq Saheb. Le deuxième calife avait également célébré le mariage d'une des filles de Chaudhry Zafar Khan avec Ijazul Haq Saheb. Le deuxième calife a déclaré le 26 décembre lors de la session d'ouverture de la Jalsa. Il a dit avant l'inauguration de la Jalsa et avant la prière, je vais annoncer quelques nikahs. En général, les mariages sont annoncés le 29 décembre après la Jalsa. Mais ces mariages sont des exceptions. Tout d'abord parce que le premier mariage sera celui de ma fille Amatul Matin avec Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Saheb, fils de Mir Ishaq Saheb. Le deuxième est celui de la fille de Chaudhry Zafar Khan. Et le troisième mariage est celui de Amatul Wahid Begum, fille de Mirza Sharif Ahmad Saheb, avec Mirza Khurshid Ahmad Saheb. Et Mirza Khurshid Saheb est également à Wakfi Zindagi. Le musulman Maoud a ajouté qu'il est en train de poursuivre ses études pour le moment et qu'il va dédier sa vie par la suite. Ensuite, le musulman Maoud a prononcé quelques paroles de prière et il a déclaré « Oh Allah, bénis tous ces mariages et fasse qu'ils soient à la base de tout progrès matériel et de la force de la communauté à l'avenir. » Dieu, par sa grâce, lui a accordé 6 fils et parmi ces 6 fils, 4 sont des Wakfi Zindagi. 2 sont des médecins et travaillent dans l'hôpital Fazl-e Umar. L'un est docteur en philosophie et est en train de servir dans la Nazareth Talib et l'autre est un avocat et sert dans le bureau du conseiller légal de la Sadar Anjuman Ahmadiyya. La défunte a servi pendant 29 ans au sein de la Lajina Imaïla. Elle a occupé le poste de secrétaire Sénat de Tijarat et adjointe à la Sadar Awal. Et en tant que secrétaire de la Sénat de Tijarat, elle avait un très bon goût. Elle faisait travailler les pauvres avec leurs mains et elle leur faisait faire de la couture et de la broderie. Ces derniers étaient rémunérés et en raison de ces travaux artisanaux, eh bien, grand nombre de femmes venaient visiter l'exposition. La défunte obéissait ses supérieurs, peu importe leur âge et peu importe leur lien de famille. Mon épouse m'a dit que lorsque elle occupait la fonction de présidente de l'Ajna de Rabwa pendant 2 ans, la défunte était secrétaire Salat Tijarat et l'aidait également en tant que vice-présidente. Elle travaillait de tout cœur et avec une grande modestie. Elle était imbue d'une grande obéissance. Chaque fois qu'une tâche lui était confiée, elle la réalisait avec beaucoup d'enthousiasme. Son mari, Mokaram Mirza Khurshid Ahmad Saheb, a rapporté « Elle était pleinement à la hauteur d'une femme de Wakfi Zindagi. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle s'est occupée de l'éducation des enfants et par la grâce d'Allah, suite à cette éducation, 4 parmi ses 6 fils ont dédié leur vie. En plus de ses enfants, elle s'occupait également d'une très belle façon des enfants du personnel de service qui était présent dans la maison. Si un enfant ne savait pas lire le Saint-Coran, elle lui enseignait le Saint-Coran. En plus d'enseigner le Saint-Coran à ses enfants, elle enseignait également aux enfants du personnel et nombre de ses enfants ont appris la récitation du Saint-Coran et la traduction du Saint-Coran en fonction de leur âge. Le mari de la défunte continue. Lorsqu'elle était au lycée, elle avait vu en rêve Mia Abdulrahman Saheb, son oncle maternel, qui était originaire de Malakotla. Elle lui avait fait parvenir de très beaux bracelets en or par le biais d'une femme. Et cette femme, en lui remettant ses bracelets, lui disait 65 et 82. Afin de s'assurer qu'elle avait bien compris, elle demanda de nouveau 65 et 82. Elle a raconté qu'elle a compris ce message par la suite lorsque le deuxième calife, qu'Allah soit content de lui, est décédé en 1965. Et le troisième calife, quant à lui, a rendu l'âme en 1982. Son fils Adil écrit « Lors de la Jalsa Salana, on recevait plus de 100 invités à la maison et elle s'occupait d'eux avec une grande joie. » Lorsque le quatrième calife avait émigré, c'est elle qui avait préparé du thé pour le voyage ainsi que d'autres choses pour le trajet. De ses propres mains, elle avait l'habitude de préparer et d'envoyer des gourmets au quatrième calife. Et tout comme elle le faisait pour le quatrième calife, elle en faisait de même pour moi. Elle préparait et m'envoyait du halwa qui était une de ses spécialités. Elle préparait cela de ses mains et elle avait toujours un très grand respect, une très grande considération à l'égard du califat. Elle a bien servi sa mère, ainsi que sa belle-mère et son beau-père. Elle considérait ses belles-sœurs comme ses filles. Elle récitait le Saint-Coran, elle priait de manière très assidue et elle faisait en sorte que ses enfants le soient également et elle les envoyait à la mosquée. Après la prière de Fajr, elle demandait aux enfants de réciter le Saint-Coran. Elle s'occupait très bien des pauvres et du personnel de service. Il n'y avait aucune formalité entre nous, étant donné que nous habitions dans la même maison. Son fils écrit que, après avoir été élu calife, elle disait à mon propos, « Avant son élection comme calife, exigeait du calife certaines tâches. Qui va le faire à sa place à présent? Qui va s'occuper de mes terres à présent ?» Je lui rassurais à ce propos et jamais elle n'a fait des demandes à cet égard. Et elle faisait ce que je lui demandais de faire, et elle était satisfaite à cet égard. L'une de ses belles-sœurs, qui est également la femme de mon frère, a écrit que nous avions avec la défunte une relation qui ressemblait à celle d'une mère avec ses filles. Après le décès de notre chère mère, la défunte s'est grandement occupée de nous. Lors de nos mariages, elle s'est occupée elle-même de nos robes, de nos bijoux, de la dot, comme le fait une mère pour ses filles. Après le mariage, jusqu'à maintenant, elle m'envoyait une somme d'argent lors de la fête de la ride, comme le fait une mère pour ses filles. Elle a élevé plusieurs de ses enfants à la maison et elle avait une attention particulière pour l'éducation mondaine et spirituelle de ses enfants pauvres. Elle élevait elle-même une fille adoptive et elle a préparé son mariage et envoyé un message à nous toutes ses belles-sœurs en disant que si nous ne participions pas à ce mariage, eh bien, elle ne viendra pas au mariage de nos enfants. C'est ainsi qu'elle exprimait son amour et sa proximité avec les pauvres. La plus jeune de ses belles-sœurs a écrit à ce sujet. Une fois, je lui ai demandé à partir de quel âge elle avait commencé à accomplir la prière Tahajjud. Mais jamais la défunte m'a répondu. Elle évitait de répondre, mais après avoir insisté, elle m'a répondu que j'accomplis la prière Tahajjud dès l'âge de 12 ans. Elle s'est elle-même occupée financièrement des dots et des frais d'éducation de nombreux enfants, et elle participait également au fonds de la Jina consacré à l'artisanat. S'il n'y avait pas grand monde pour le mariage d'une fille pauvre, eh bien, elle envoyait le repas de chez elle. Mian Khurshid Ahmad Saab a décrit sa relation avec le califat. Il dit « Une fois, j'ai demandé à la défunte de me donner un pot de miel. Elle a répondu que c'est le calife qui m'a envoyé ce pot de miel et je ne peux pas te le donner. J'ai un autre pot similaire, tu peux le prendre. » Par la grâce d'Allah, elle avait 6 belles filles et elle se comportait de la meilleure manière envers elles. Et elle les considérait toutes comme ses filles. Et la plus jeune de ces belles filles est la fille du docteur Hamidullah Saheb, qui est ici à Londres. Sa femme est malade. Et c'est pour cette raison que la belle-fille de la défunte, qui est la fille de la femme du docteur Hamidullah, est venue à Londres. Malgré le fait que la défunte était malade, elle a dit à sa belle-fille de partir à Londres. Elle lui a dit de partir là-bas sans souci et qu'elle allait prendre soin de ses enfants. En dépit de sa souffrance, elle faisait tout elle-même avec beaucoup de patience. Ma plus jeune sœur écrit au sujet de la défunte. Lorsqu'elle demandait des services aux serviteurs de la Jamaat, elle le faisait avec beaucoup de calme. Parfois, lors des expositions, il y avait des pertes, mais elle n'était jamais sévère. Elle travaillait calmement et c'est pour cette raison que les membres de la Lajina appréciaient de travailler avec elle. Elle était parfaite concernant l'administration et dès qu'une femme qui servait la Jamaat rencontrait des difficultés ou des soucis, elle essayait de l'aider aussitôt. Ma sœur Amtul Qudus Saheba écrit « Dans les œuvres de l'homme, il y a toujours des manquements » et elle accordait une grande importance au Saint-Coran et au Hadith. La piété faisait partie intégrante de sa personne. Lorsqu'elle constatait que quelque chose allait à l'encontre de nos traditions et de nos enseignements, elle s'y opposait ouvertement. Comme elle était la plus jeune, elle était la plus choyée de la famille, mais elle était aussi très modeste et elle parlait aux gens avec une grande modestie. Ma grande sœur, Amtur Rauf Saheba, écrit « Après la partition de l'Inde du Pakistan, lorsqu'on habitait à Model Town en compagnie de Mirza Sharif Ahmad Saheb, ce dernier nous enseignait régulièrement le Saint-Coran et les Ahadiths. En réunissant tout le monde. Depuis ce temps, notre tante Amtul Wahid Saheba, qui est décédée, a vu naître en elle un grand enthousiasme et elle étudia elle-même ses écritures saintes et enseigna aux enfants et aux autres le Saint-Coran et les Hadiths. Il y avait un des enfants qui avait des problèmes d'élocution et elle lui enseigna la récitation du Saint-Coran en restant des heures et des heures à répéter avec lui. Et maintenant, par la grâce d'Allah, cet enfant n'a plus de problème d'élocution et il parle facilement. Ma sœur écrit en disant qu'après le brevet, la défunte a fait le baccalauréat arabois. Elle commençait à étudier après la prière de Tahajjud et elle accordait toujours une grande importance à la Salah. De nombreuses personnes ont décrit ses qualités. Son fils a décrit que, avant votre élection comme calife, elle avait une autre relation avec vous. Mais après votre élection comme calife, elle a dit que, à présent, il n'est plus mon neveu, il est le calife. Il n'y a plus que de relation de califat avec lui. Lorsqu'elle venait ici, elle venait également me rencontrer. Parfois, elle était assise et elle se levait soudainement. Je lui demandais de rester assise car elle était malade. Ma femme aussi lui demandait de rester assise, mais elle se levait immédiatement. Elle avait une grande confiance en Allah l'exalté. Une fois, un de ses fils se maria avant son aîné, mais elle n'avait préparé une portion de la maison que pour l'aîné. Son mari lui proposa alors d'attribuer cette portion au jeune pour le moment car il n'avait pas le moyen de faire plus. Elle répondit « Non, ce qui a été préparé pour l'aîné sera accordé à l'aîné et Allah nous donnera les moyens. » Une fois, par hasard ou par le décret d'Allah, en lisant le Saint-Coran, son attention fut attirée vers un verset du Saint-Coran. Après quoi, elle dit à son mari que, de par ce verset, je comprends qu'Allah va combler nos besoins. Ainsi, à cette époque, la vie n'était pas chère. Elle a remporté un prix de 100 000 roupies de l'État. Et avec cet argent, elle a fait bâtir une maison. Son fils ajoute que lorsque on a reçu la nouvelle du décès du quatrième calife, nous étions tous partis à la mosquée pour la prière. Notre mère aussi était très triste. Ma grande belle-sœur commença à pleurer très fort. Sur ce, notre mère lui a dit « Arrête de pleurer, c'est une très grande épreuve pour la Jamaat. C'est le moment de prier, prie davantage. » Il ajoute aussi que j'avais 9 ans lorsque le troisième calife est décédé. J'étais petit à l'époque et j'avais ri par rapport à quelque chose. Et la défunte m'a réprimandé. Elle m'a dit « Tais-toi, tu ne sais pas dans quel état la Jamaat se trouve aujourd'hui. » Elle nous a fait prendre conscience de l'importance de la Jamaat dès notre plus jeune âge. La défunte enseigne aussi différentes sourates aux enfants en les encourageant. Une fille qui a été élevée chez elle et dont le mari est en train de servir la Jamaat dans le bureau du secrétaire privé a dit que « J'ai grandi chez la défunte depuis l'âge de 4 ou 5 ans et elle m'a enseigné, elle a fait tout pour mon éducation, elle m'a marié. Après le mariage, dès que j'avais besoin d'un service, elle m'appelait chez elle. Elle ajoute une fois, elle est venue chez moi et a vu un ancien canapé. Elle m'a demandé où j'avais trouvé ce canapé. » Je lui dis, c'est un voisin qui nous l'a offert. Elle m'a dit de l'enlever et elle nous a offert un nouveau canapé. Elle s'est occupée de l'éducation académique de mon fils et jusqu'à ses derniers jours, elle a fait faire des bijoux pour le mariage de ma fille et pour le mariage de mon fils. Elle faisait tout et elle était attentive à propos de tout. Elle tenait aussi à ses relations bâties par l'allaitement. Le fils du fils de sa nourrice qui l'avait allaité est en Suisse. Il dit « À chaque fois que mon père était inquiet ou qu'il avait des difficultés, eh bien la défunte s'est occupée de lui. De même, l'un de ses proches de sa sœur de lait m'a écrit « Elle s'occupait d'elle, dit-elle, en toute modestie lorsqu'elle était malade. » Voilà donc les qualités que possédait la défunte, qu'Allah l'exalté permette également à ses enfants de développer ces mêmes qualités et qu'ils soient fidèles envers le califat et qu'Allah l'exalté élève son rang. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de ces 3 personnes.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ ولذكر الله أكبر.